Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone l'artiste de la semaine sur notre antenne, le coup de cœur quoi, Xavier Lacouture. Xavier, bonjour.
Oui, bonjour, c'est dur à dire coup de cœur quoi.
Hein. Surtout pour un matin. Alors les coups de cœur quoi sont les habitants de la ville de Coudekerque, branche où tu as poussé tes premiers cris.
Absolument, qui signifie l'église froide.
D'accord. Ah, en flamand. Tes parents auraient imaginé un jour que ces cris se transformeraient en chansons ?
Pas une seconde, je pense, oui. Je pense qu'ils ont même résisté un petit peu à une époque.
Alors, la famille Lacouture, avec quel rapport avec la musique et la chanson en particulier ?
Ma maman écoutait de la variété, variété en général, et puis mon papa était un fan de jazz, et il aimait beaucoup de Fats Waller jusqu'à Charlie Parker. Donc en fait voilà, moi je suis un peu, c'est un peu lui la cause de la musique.
Alors, Coudekerque branche se trouve dans l'arrondissement de Dunkerque dans le département du Nord, pas loin de la Belgique et de l'Angleterre. Ça donne forcément des envies de chanter, pas uniquement en français d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire que on est à un carrefour, hein, la Flandre c'est un carrefour, donc moi j'ai passé toute mon adolescence à écouter les radios libres qui émettaient depuis le Channel, là, cette fameuse radio avec le président Roscoe, voilà, on écoutait ça, on écoutait les premières radios libres interdites et qui ont d'ailleurs été attaqués par les Anglais à l'époque. Oui, moi on écoutait beaucoup ça, on était très branchés avec la Belgique, il y avait beaucoup de tournées musicales qui passaient par Lille, et c'était un centre culturel, ça brasse entre les trois pays, quoi, l'Angleterre, tout le Nord, enfin, la Hollande, etc. Aussi, à l'époque, il y avait le folk, donc il y avait des groupes comme Rum, comme Planxty, enfin toute cette vague là, des groupes qu'on n'entendait pas forcément facilement à Paris et qu'on entendait nous quoi.
Mmh. Alors tu as vécu à ton adolescence la dernière tentative de révolution française, je vais bien sûr parler de mai 68. Ça a changé quelque chose dans ta façon de concevoir la vie? Tu étais impliqué toi à l'époque dans ce qu'on a appelé les événements?
J'étais en classe de première. J'étais donc à Dunkerque. Et je dois dire que notre révolution, elle s'est assez vite terminée parce qu'il y avait des affrontements assez violents entre les pêcheurs qui voulaient continuer le travail, qui font à peu près entre 100 et 120 kilos, quoi, de chair et de muscles. Et puis en face, les dockers qui voulaient continuer le travail et qui faisaient à peu près la même chose en poids. Donc les étudiants, ils étaient assez à Dunkerque, je veux dire, voilà, ils sont allés à la plage plutôt.
D'accord.
Non, c'était moi j'étais en plus j'étais un peu jeune, j'étais dans des choses de lycée quoi.
Mmh. Alors tes parents t'auraient bien vu embrasser la carrière de kinésithérapeute, la musique on a décidé autrement ou tu as eu ce que certains appellent un vrai métier avant de tenter ta chance à Paris?
Non, j'ai travaillé pendant même pas une année, mais en fait bon j'aimais bien ce métier, c'est un métier de contact. C'est un beau métier. Il n'y a pas de mauvais métier dans ce genre de métier-là. Si on veut bien le faire, on soulage de la douleur, surtout aussi psychologique, bien autant que physique. Donc c'est des beaux métiers, mais voilà, j'avais envie de faire de la musique, donc j'ai fait le choix d'essayer. Je me suis dit, ben voilà, c'est si j'essaye pas, voilà. Et donc je suis parti j'ai arrêté mon expérience lilloise de travail qui a duré une dizaine de mois pour aller me frotter à la vie parisienne, des cabarets et des voilà.
Bien. Alors, au début des années 70, en pleine période rock progressif, hein, celui de Yes, Genesis, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson et Ange, tu intègres un groupe de folk électrique, la Cour des Miracles. Alors, oui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce genre de musique? Les balles folk, un côté babacool post-68ard?
Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quand même la référence musicale. Les gens, ils s'intéressaient beaucoup à ça. Ça faisait partie... Enfin, moi, j'étais dans la branche électrique, hein, donc on écoutait beaucoup un groupe. Que des groupes s'appellent Steel Icepan et Fairport Convention, qui étaient des groupes qui étaient des groupes phares de la scène électro-folk. Donc ça revient à la mode d'ailleurs ces mots, c'est curieux. À l'époque on disait c'est du folk électrique, mais voilà, disons qu'il n'y avait pas de boucle, mais on jouait, c'était du rock, mais à base de musique traditionnelle avec quand même pas mal de liberté par rapport à ça. C'était des groupes phares, hein, c'est Lifepan et Fairport, c'était vraiment des bons groupes. Et qui d'ailleurs après ça a donné l'époque de Stivell, quand Stivell est devenu vraiment électrique, ça a donné Malicorne aussi. Mmh. Voilà. Donc d'accord. C'était cette époque-là, quoi. Ouais. C'était une époque où on écoutait ce genre de musique.
Donc c'est de là que tout est parti artistiquement parlant, cette envie d'écrire des chansons et de les chanter.
Alors l'envie d'écrire, elle est venue au sein du groupe, c'est-à-dire moi je jouais de la musique dans ce groupe et puis j'avais envie d'amener ma part, puis en fait ça plaisait pas, mes textes plaisaient pas forcément à mes camarades, et du coup j'ai développé une activité parallèle en continuant dans le groupe à faire ce qu'on faisait, quoi, qui était d'ailleurs très intéressant musicalement. Mais la part d'écriture, je l'ai développée à côté, quoi, complètement.
Donc avec tes chansons, tu es monté à Paris et tu as joué dans différents cabarets de la rive gauche, ceux qui ont révélé tant d'artistes inconnus ou reconnus. Tu étais dans quel registre, chansonnier ou un peu comme aujourd'hui ?
Ah, c'était exactement ça. C'est-à-dire que je faisais des chansons et puis je parlais entre les chansons. Disons, il y avait toujours une partie, il y a toujours eu une partie comme ça de stand-up. Ça se disait pas comme ça à l'époque, mais... Ils ont des choses un peu écrites et puis des choses un peu improvisées entre les chansons. Il y a toujours eu ça.
Mmh. Alors depuis le début, l'humour est très présent chez toi. C'est plus facile de raconter des choses graves en faisant rire, souvent jaune d'ailleurs, ton public.
C'est-à-dire que je pense que c'est plus facile. C'est-à-dire en fait, même si c'est un peu mon époque, moi j'ai jamais été fan des chanteurs à message. J'ai toujours estimé qu'il fallait laisser aux gens le choix de ce qu'ils pensent. Et donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, nous, disons, en faisant des chansons, et c'est de donner une vision peut-être un peu poétique, un peu décalée, un peu différente et humoristique du monde. Et enfin, je pense que je donnais un regard. D'ailleurs, c'est le cas de tous les artistes. Hein. Je pense qu'à un moment, quand on essaie de faire quelque chose comme ça, on essaie de proposer un regard différent pour que les gens se disent tiens, on peut le voir comme ça quand même. C'est pas forcément si terrible. Voilà. Puis l'humour, c'est d'abord rire de soi. Donc, je commence déjà par moi-même. Je m'occupe déjà de mon cas.
Alors, Bonjour l'amour, ton premier single, on disait 45 tours à l'époque, hein,
oui.
Date de 83, et Pile ou Face, ton premier album, 33 tours, est sorti en 87. Tu étais à l'époque dans les grandes maisons de disques, Polydor ou CBS. Tu avais un certain succès, pour ne pas dire un succès certain.
Ça a jamais abouti à vraiment un tube, mais disons que c'est vrai que j'avais été signé chez Polydor avec le 45 tours, qui a vendu à l'époque 5000 exemplaires, mais ce qui maintenant serait carrément un disque d'or.
Oui, un exploit.
Mais à l'époque, ça suffisait pas pour continuer. Et donc après, j'ai attendu un peu, et puis j'ai sorti chez CBS, sous le label Griff, le label de Hervé Bergerat qui s'occupait de TFN à l'époque, et avec qui je suis resté fidèle jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Alors tu continues à enregistrer des albums, dont le dernier en date, hein, Brocantologie, sorti en 2007, à un rythme de 3 albums par décennie. C'est par choix ou les moyens de faire plus t'ont manqué à un moment ?
Non, moi j'ai fait 7 disques là. Donc en fait je continue à faire des chansons, mais c'est vrai que maintenant je me pose la question depuis déjà 2 ans de savoir si ça vaut le coup de refaire un disque. En fait on fait un disque pour que les gens partent avec un souvenir. Or il y a pas mal de chansons qui sont déjà enregistrées. C'est pas exclu que je fasse une clé USB avec. Je suis en train de chercher une solution pour laisser plus de choses aux gens. Pour moins cher à l'époque de la compilation, du téléchargement et tout, je pense qu'il faut que nous aussi on change, qu'on arrête des supports qui sont finalement un peu obsolètes. Bon, alors donc, faut laisser quelque chose aux gens à la fin. C'est une vraie question, hein, pour maintenant faire un disque, si c'est uniquement pour le vendre à la fin des concerts, c'est sûr que. Enfin, c'est déjà ça, hein, mais.
Ouais. Alors parallèlement à ton métier de chanteur et musicien, tu écris pour les autres, au début pour des artistes que l'on qualifiera de variété, et aujourd'hui pour ce que certains appellent la nouvelle génération comme Zoé ou Laurent Vielle. Tu mets aussi en scène des spectacles d'autres artistes. Tu peux pas rester seul longtemps, tu éprouves le besoin de travailler avec et pour les autres.
D'ailleurs, moi, j'ai, moi j'ai fait ce métier pour parce que j'aime la scène, j'aime le spectacle, j'aime aller au spectacle. Je vais au spectacle tous les soirs. Dès que je joue pas, je vais au spectacle. Je vais voir d'autres gens. Donc même la nouvelle scène, la toute nouvelle scène qui m'intéresse beaucoup. Mm-hmm. Et puis mettre en scène, c'est bien parce que enfin c'est un autre plaisir. C'est-à-dire qu'en fait d'un seul coup, ça permet de jouer avec un personnage qu'on n'est pas. C'est-à-dire que quand on est un personnage, moi je, par exemple, je peux pas tout faire avec personne ne peut tout faire d'ailleurs avec le physique qu'on a, le type de voix qu'on a, etc. Forcément, c'est une partie de l'émotion qu'on transmet en spectacle vivant. Et d'un seul coup, on a une autre matière, on a un autre personnage qui peut véhiculer d'autres choses. Donc ça permet de mettre son imaginaire au service d'un autre projet. Et en plus, c'est vrai que le fait d'avoir, moi, de beaucoup de satisfaction de mon métier en tant qu'interprète, fait que j'ai pas trop de... Comment dire, j'ai aucune aigreur à mettre en scène quelqu'un d'autre. J'ai pas de... Ben, ça n'est pas un substitut, quoi. Mmh. C'est quelque chose en plus qui me permet de développer autre chose, mais sans, j'ai pas de regret, quoi. J'ai pas de malaise par rapport à ça. C'est vraiment que du plaisir de se mettre au service de quelqu'un d'autre, sans aller plus loin, enfin, sans essayer de tirer la couverture à soi du tout. Donc c'est intéressant quand même. C'est vraiment un projet intellectuellement réjouissant.
Alors on parlait tout à l'heure d'humour, d'écriture et de mise en scène. Il y a chez toi cet amour pour les mots et les jeux de mots que l'on retrouve chez un Raymond Devos ou un Vincent Rocard. Si je te dis hommage de tête du côté de Monet, tu me réponds bien évidemment au Festival de l'Humour.
Oui.
Hein, ce fut un vrai régal pour, je cite Vincent, hein, de travailler avec toi. En trompe de spectacle, vous êtes bien entendu?
Bah, c'est-à-dire que bon, Vincent, c'est déjà quelqu'un que je connais depuis fort longtemps. Je l'ai connu à l'époque où il n'était pas connu, justement. Et c'est vrai que quand on a eu cette opportunité, enfin, j'ai eu cette opportunité de mettre en scène un spectacle de clôture, le premier qu'on m'a proposé au Festival de Monet. Et donc, c'est un festival qui s'appelle les Devos de l'humour. Donc, j'ai proposé de faire un spectacle autour de Devos. Si j'avais déjà le scénario de quelque chose qui se passait dans la tête de quelqu'un, c'est-à-dire une pièce qui se passait dans la tête de quelqu'un, j'avais déjà écrit quasiment la totalité, enfin tous les fondamentaux, quoi. Et quand on a eu cette proposition, je me suis dit bah tiens, on va le faire dans la tête de Devos. C'est un peu dans la peau de John Malkovich, enfin c'est un peu, disons que c'est un peu cette idée de que quelque chose se passe dans la tête de quelqu'un. Donc tout le procédé était autour de ça, et c'est vrai que comme ça se passait dans la tête de Devos, il me fallait un complice qui soit dans la, disons, un digne héritier. Et là, c'est plus qu'un héritier, parce que lui, il fait son chemin à côté, mais c'est vraiment, vraiment la famille proche, quoi. Donc, c'était un bonheur. Et puis, Vincent est un magnifique artiste et surtout quelqu'un de modeste et d'humble, ouais. Ce qui est pas courant. Donc, c'est-à-dire, donc, bosser avec quelqu'un comme ça, c'est que du bonheur.
Ouais. Alors, on parlait de concert, tu fêteras à ta façon le nouvel an à tout bout de champ à Lyon le 31 décembre 2011.
Et oui, j'ai appelé ça ça fait deux fois, voilà. J'ai appelé ça le Réveillon.
Voilà, donc tu es un adepte, toi, de ce genre de spectacle un peu particulier au niveau du calendrier?
Alors, je vais finir par croire que oui. En réalité, on l'a fait l'an dernier à tout bout de champ, c'était très très agréable, et j'ai rappelé Frédéric et David et Marc David en disant bah, ce serait bien peut-être de repasser à Lyon dans l'année à l'occasion, puis ils m'ont dit ah, non mais on voudrait que tu reviennes pour le réveillon encore. donc moi je suis ravi, hein. De toute façon c'est des soirées que j'affectionne pas forcément, j'aime bien Lyon, ça va être très agréable d'aller à cette époque-là, il fera un peu frais, et c'est une très jolie ville, donc voilà, je suis ravi de venir là pour le 31.
Alors, est-ce que c'est facile de divertir un public en train de manger et boire? Ça va te rappeler tes années
non,
là.
Ça se passe pas tout à fait comme ça.
D'accord, alors comment ça se passe alors?
Non, il sépare vraiment les deux choses, et d'accord. C'est aussi ça fait partie du...
Ah bon.
Non, moi je suis pas un adepte du steak... de Le Forestier là, pendant que les gens mangent, chanter pendant que les gens mangent, je pense pas qu'on ait vraiment les oreilles disponibles quand on mastique.
Non.
Donc, je pense que là ils le font de manière vraiment élégante, c'est-à-dire qu'il y a un apéro, c'est sympa, c'est convivial. Ensuite il y a le spectacle, et le spectacle c'est un spectacle bien sûr un peu particulier. Et, et après, on arrive à minuit et là, on mange.
D'accord.
Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie du repas qui se fait avant. Et puis on termine à minuit et puis après bon on fait ce qu'on veut, mais je veux dire que ça permet de passer l'année dans de tourner la page d'une année un peu différemment quoi.
Bien.
En plus assez émouvant de caler le spectacle pour finir pile à minuit. Et ça c'est peut-être la plus grande difficulté de ce genre de choses, c'est que sur le timing il faut être super précis pour arriver à placer la bonne chanson quand il est voilà à la terminer, pas la couper au milieu évidemment.
Ouais.
Et... À minuit il faut que ça s'arrête quand même, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, que les gens s'embrassent.
C'est tombé pile poil l'année dernière.
C'est tombé pile poil. Ah. C'était là, mais bon, j'ai fini par devenir un spécialiste si je le fais souvent. non, mais je pense que l'année prochaine, c'était Gérard Morel qui l'avait fait.
D'accord.
Et ça s'est bien passé aussi parce que Gérard est un garçon aussi très très convivial et je pense que pas finir l'année avec Gérard, je le sais pour l'avoir fait une fois chez lui, c'est passionnant.
Eh ben merci Xavier Lacouture d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Merci à toi pour cette lumière sur la semaine.
Ah, c'est gentil. Rappelons que ton dernier album Brocantologie est toujours en vente. On peut se procurer un peu partout ainsi que toute ta discographie.
On peut se procurer, c'est-à-dire vu la vitesse à laquelle la Fnac se sépare des disques maintenant, on peut le sur Internet, on peut le commander.
Voilà.
Sans problème et voilà, il revient même plutôt moins cher que dans les grands magasins, donc c'est facile, on tape sur Internet et il y a moyen de télécharger un bon de commande et voilà.
Voilà, puis il y a un site Internet www.xavierlacouture.com.
Voilà, absolument, hein? xavierlacouture.com.
Voilà, et plus important, tu seras en concert pour fêter à ta façon la fin d'année à tout bout de champ à Lyon, ça le samedi 31 décembre. Oui. Et Xavier, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Bon concert, bonne chance pour la suite de tes nombreuses aventures et puis à bientôt sur Tropic FM.
Oui, au revoir.
À bientôt, au revoir.